Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Brice Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, coup de tonnerre en Alberta, suite à la publication du recensement 2021 de Statistique Canada, des 50 000 élèves éligibles à une éducation en français, seuls 8 500 y ont accès.
Bien, on est vraiment estomaqué. L'écart énorme qu'il y a entre la capacité actuelle de nos écoles et le potentiel d'inscription, avec ces données-là précises de la distribution, c'est vraiment ça ce qui nous manquait. Et franchement, d'être capable, c'est l'outil qu'on va être capable de mettre en œuvre le jugement de la Cour suprême de juin 2020.
Nous aurons deux reportages sur cette question. Un haricot moda catalan porté disparu et retrouvé au Québec dans les jardins du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.
Alors, ils ont envoyé des graines à l'Université de Barcelone et là-bas, ils ont commencé à faire des recherches. Et puis finalement, ils ont découvert que ce haricot-là était vraiment un haricot catalan qui était disparu des cultures depuis plusieurs années.
Et dans notre périscope, on se balade dans les territoires du Nord-Ouest. L'ambassadeur d'Islande y était. On va à Fermont, dans le nord du Québec et au Nouveau-Brunswick. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, on commence l'émission en Alberta. Nos collègues journalistes albertains nous présentent aujourd'hui deux reportages sur l'éducation en français dans cette province. Ils sont alimentés par les données publiées dans le dernier recensement 2021 de Statistique Canada, des chiffres qui donnent un nouveau souffle aux revendications des francophones de cette province de l'ouest du pays. Statistique Canada note que 50 000 Albertains d'âge scolaire seraient admissibles à recevoir une éducation dans un établissement francophone. Or, seuls 8500 d'entre eux sont présentement inscrits dans une école francophone. Pourquoi il n'y aurait tout simplement pas assez d'écoles pour les accueillir? C'est ce qu'affirme l'Association canadienne-française de l'Alberta, qui exige depuis belle lurette que les gouvernements investissent des sommes plus conséquentes dans l'éducation en français et que les besoins sont criants. Si l'on doit se fier aux données de Statistique Canada sur l'éducation, il faudrait donc 8 fois plus d'établissements francophones pour pleinement répondre à la demande. Le président de l'Association canadienne-française de l'Alberta, Pierre Asselin, est sans équivoque. Le gouvernement albertain et le ministère de l'Éducation de l'Alberta doivent en faire plus. L'ACFA, qui demande par ailleurs un financement plus conséquent pour le campus universitaire de Saint-Jean, qui, entre autres, forme des enseignants francophones, selon l'ACFA, il est temps d'entamer une révision complète du continuum d'éducation, de la maternelle au poste secondaire, poursuit M. Asselin. Ces données vont au-delà de ce que nous pouvions envisager, poursuit M. Asselin, président de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Un premier reportage avec Vincent Lavoie, posté à Plamondon. Il est en compagnie du président de l'ACFA, Pierre Asselin.
C'est vraiment un moment pour célébrer. C'est un moment de fierté. On est vraiment estomaqué. Nous attendions un potentiel important d'enfants pouvant fréquenter les écoles francophones en Alberta, mais les données dévoilées par Statistique Canada aujourd'hui vont vraiment au-delà de ce que nous pouvions envisager. On est extrêmement fiers du travail qu'on a accompli comme ACFA en partenariat avec la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta pour initier même cette démarche en 2017 pour les changements de recensement de 2021. Alors, ce que ça démontre, c'est que même si ça prend un petit peu de temps, ça peut vraiment aboutir à un vrai outil. T'sais. L'écart énorme qu'il y a entre la capacité actuelle de nos écoles et le potentiel d'inscription, avec ces données-là précises, pas seulement les numéros, mais précis de la distribution. C'est vraiment ça ce qui nous manquait, tu sais, quand on a eu des nouvelles écoles. Alors, nous venons d'offrir au ministère de l'Éducation l'outil, ainsi que les écoles francophones, les outils, pour finalement être capable de mettre en œuvre nos droits sous section 23 qui sont là depuis 1981 et les outils n'étaient pas là dans le temps. Et franchement, d'être capable, c'est l'outil qu'on va être capable de mettre en œuvre le jugement de la Cour suprême de juin 2020. Alors, c'est vraiment un outil qu'on est très fiers. C'est quelque chose qu'on a commencé ici en Alberta et il faut se mettre au travail rapidement pour ouvrir des écoles francophones parce que c'est l'assimilation qui nous guette et puis c'est le temps d'agir.
Justement, là-dessus, l'Alberta a la plus grande proportion d'enfants inscrits dans les écoles francophones, malgré le fait qu'elle compte aussi la plus grande population francophone après le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Elle est aussi la deuxième province en ce qui concerne le plus grand nombre d'enfants admissibles à l'éducation francophone. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces chiffres, selon vous?
Bien, je pense que si on prend l'exemple de... pareil, direct, c'est une autre infrastructure. Je crois que l'infrastructure pour les écoles francophones de la Charte, section 23, sont le pire dans tout le pays. Et c'est le temps que les conseils scolaires agissent. Et maintenant, ils ont l'outil de le faire. Prenons l'exemple de l'école à Airdrie. La problématique est que Airdrie étant le quatrième, je crois, environ 1800 ayant droit à Airdrie, ils ont ouvert une école qui était désignée pour 150 élèves. Et dans moins de 2 ans, tu as plus que 530 élèves là. Ça démontre que les écoles, quand les construits sont pleines, c'est l'idée de « if you build it, they will come ». Alors, on sait qu'on construit les écoles francophones qui sont pleines à craquer dans une année ou deux. On les bâtit pas avec assez de capacité. Alors, à Airdrie, c'est 1800. Ça veut dire qu'on aurait pu ouvrir 3 écoles à Airdrie. Alors, pensez à ça, on est 67 000 ayant droit, les enfants dans notre province. Nous avons seulement 8 500 dans nos écoles. C'est fois 8 qu'il nous faut. Il nous faut 8 fois le montant d'écoles que nous avons actuellement aujourd'hui. Là, ça fait la croissance dans le futur. Alors, c'est vraiment des numéros estomacants. Et puis, oui, en Alberta, le fait que nos numéros sont plus bas en proportion dans une population, ça démontre vraiment le manque d'infrastructures que nous avons ici. Nous avons des écoles merveilleuses, un personnel merveilleux. Nos écoles sont excellentes, mais notre infrastructure ne l'est pas.
Il y a effectivement du travail là-dessus et ça nous fait un lien justement qu'on pourrait peut-être tracer avec l'affaire du campus Saint-Jean. Il y a bien sûr ce lien-là qu'on essaie de trouver pour former davantage d'enseignants francophones. Donc, quel lien on pourrait justement tracer avec ces deux éléments-là?
Ces numéros ici vont bénéficier de l'analyse de tout le continuum, non seulement la maths à 12, mais le postsecondaire ainsi que la préenfance. Par rapport au postsecondaire, le campus Saint-Jean en particulier, ce que ça démontre... c'est que, tu sais, on voit à cette heure ici que le campus Saint-Jean n'est pas capable d'accueillir assez d'étudiants, pas assez de profs. On sait maintenant qu'il nous faut x8 la capacité qui est là. Alors, la même analyse qui s'applique au Matadou s'applique à la demande qui va être là en sortant de nos écoles pour le campus Saint-Jean. Et puis, il faut pas oublier, on est en train de juste parler des écoles francophones. Quand on regarde les numéros d'immersion de plus, ça ajoute à la proposition. Alors, oui, pour tout le continuum en éducation, ça va vraiment aider. Et c'est d'avoir chiffré ceci. Finalement, on a la preuve qu'il nous faut. Ouais, juste vraiment le point que je trouve juste incroyable, numéro 8500 ou 8800 dans nos écoles de 67 000. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. 25 000 à Edmonton, 25 000 à Calgary, la balance dans le reste de la province. Alors, ça démontre vraiment nos deux centres, les deux métropoles dans la province. Il y a beaucoup de travail à faire et franchement, tout partout, mais on est juste vraiment excité pour le futur. C'est vraiment du vent dans nos du vent dans nos vols. Et puis, mais on devrait vraiment être fiers du travail qu'on a fait ici en Alberta. C'est commencé par le ancien président John Johnson en 2017. Ça démontre qu'il faut planter des graines et puis qu'on ça mène à quelque chose. Et puis aujourd'hui, on est en train de semer. Alors, ça fait du bien.
Mais le manque de structure n'expliquerait pas à lui seul le faible nombre d'élèves inscrits à une école francophone en Alberta. Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, fait remarquer que l'Alberta a aussi le plus faible taux de transmission de la langue française des parents aux enfants. Les écoles francophones, dit-elle, perdent beaucoup d'élèves au profit des écoles anglophones, surtout et paradoxalement, lorsque les deux parents parlent le français. Certains parents craignent que leurs enfants n'apprennent pas assez bien l'anglais à l'école francophone. D'Edmonton en Alberta, Élie Inkoulou en discute avec Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta.
Bonjour Mireille.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien et vous?
Oui, ça va.
Eh bien, ces données sont préoccupantes déjà et puis ça sous-entend que les écoles francophones perdent beaucoup d'élèves au profit peut-être des écoles anglophones. Vous qui êtes dans les milieux ou dans les secteurs de l'éducation, comment vivez-vous cette situation?
Bien, ça concorde un peu, ces résultats-là concordent un peu avec ce qu'on sait depuis ou ce que je dis depuis plus de 10 ans maintenant.
Oui.
En Alberta, on a le plus bas taux de transmission de la langue française du parent aux enfants. J'aurais espéré que les résultats seraient un peu meilleurs. Ils sont mieux quand même qu'il y avait quand on avait moins d'écoles. Là, on a plus d'écoles, ils sont plus accessibles.
Oui.
Mais on a quand même un taux faible de transmission de la langue du parent aux enfants, surtout quand il y a deux parents qui parlent français. Et on attitude ça surtout à un peu de manque de connaissances de produire un enfant qui est bilingue.
Wow.
Il manque encore la croyance que l'école francophone est la meilleure place pour que l'enfant apprenne l'anglais. On n'a pas encore compris que c'est là où que ça se passe.
Et quels sont les facteurs, selon vous, qui amènent ces parents francophones à inscrire leurs enfants dans les programmes d'immersion ou quasiment dans les programmes anglophones plutôt que dans les écoles francophones?
C'est vraiment carrément un manque de connaissances. Puis le parent prend la décision basée sur ses compétences, okay, ses expériences à lui ou à elle.
Mm-hmm.
Alors, un parent qui arrive en Alberta qui est unilingue francophone, comme adulte, c'est très difficile d'apprendre l'anglais. Alors, on ne veut pas que notre enfant souffre comme nous, on a souffert comme adulte. Et c'est la base de la décision. Mais on oublie qu'un enfant apprend tellement rapidement que ce parent-là, s'il avait été mis dans les mêmes conditions de son enfant, n'aurait pas vécu cette difficulté. Alors, l'école francophone est quand même la meilleure place pour apprendre les deux langues. Ils ne vont pas apprendre le français aux dépens de l'anglais. Mais c'est ça, on base la décision sur notre vécu et notre passé comme parents, et pas par l'avenir et qu'est-ce qu'il y a devant nous, parce que c'est pas pareil, là. On n'est pas dans notre pays, on est ailleurs.
Oui.
Les conditions, l'environnement est complètement différent.
Et c'est justement cette crainte qui perd les enfants et ils deviennent quasiment anglophones.
On entend des témoignages régulièrement de parents francophones qui, justement, l'enfant s'identifie plus à la francophonie.
Oui.
Est mal à l'aise en français, souffre d'insécurité linguistique, alors abandonne carrément la culture. Alors, quand cet enfant-là va avoir des enfants, ben tu peux être garanti que c'est des générations qui sont perdues.
Effectivement, effectivement. Mireille Péloquin, directrice générale de la FPFA. 50 000 enfants en Alberta sont à l'âge scolaire. Ma question est, si aujourd'hui, les parents francophones décidaient d'envoyer tous ces enfants dans nos écoles francophones, se fera-t-il de la place pour eux?
Oh boy! Il faudrait qu'on se tasse, il faudrait qu'on soit très créatif. Puis je le sais que les conseils scolaires le sont.
Oui.
Je crois que ces statistiques ici vont être très utiles pour nos conseils scolaires. Bien, pas juste nos conseils scolaires, pour nous, la Fédération des parents, pour la CFA provinciale, on travaille tous là-dessus, tous les organismes communautaires. On veut plus d'infrastructures, on veut plus d'écoles, on a besoin de la place pour accueillir ces gens-là. Je crois que ces statistiques-là, c'est une très bonne chose. On a été vraiment contents de voir que cette question a été posée puis que ça a fait partie du recensement. Puis on célèbre aujourd'hui. Si on met les deux ensemble, le cas de la Cour suprême en Colombie-Britannique, ça a établi un précédent et maintenant on a les statistiques pour soutenir qu'on a besoin des écoles. Les gouvernements, il faut qu'ils soient à l'écoute.
Effectivement. Ça, c'est une grande question qui, il faut s'y intéresser vite parce que, également, je me dis, si les parents s'est décidé d'agir pour carrément envoyer leurs enfants dans les écoles francophones, qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre comme message?
C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. C'est le plus beau cadeau. Je comprends qu'il y a des enfants ou des parents qui cherchent des écoles de sport, on cherche des écoles qui ont les arts qui sont beaucoup plus poussés.
Oui.
C'est toutes des belles choses, mais à la fin de la journée, là, le cadeau d'une deuxième langue ou d'avoir deux langues, c'est quelque chose que tu vas avoir pour la vie.
C'était Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Merci pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Un rare haricot catalan porté disparu des terres catalanes a été retrouvé dans les cultures et jardins du Bas-Saint-Laurent et de la Basse-Côte-Nord au Québec. L'histoire du haricot moda commence avec M. Juan Rogue Jenner, un Espagnol originaire de la ville de Seca en Catalogne, qui a fui la guerre en 1939 pour s'installer en France. Puis en 1957, il traverse l'océan pour prendre racine à Montréal et enfin s'établir dans le Bas-Saint-Laurent et notamment dans le village de Sainte-Luce. C'est là qu'il cultive son haricot moda. On ne sait pas trop comment il est arrivé avec lui, mais il l'a, il le cultive et il partage un jour ses semences jalousement conservées avec Louise Proulx, une résidente du village, de ce village balancien de Sainte-Luce. Et elle en donnera à son tour quelques-unes à Micheline Lapointe-Monger, qui a un jardin de l'autre côté du fleuve à tête à la baleine. Donc voilà, l'Espagne, le bas du fleuve et puis la côte nord, tout ça avec un haricot en main. Après le décès de M. Juan Rogue Renner en 2014, Mme Proulx se rend compte que ce fameux haricot moda était rare, qu'il avait même disparu donc des cultures et jardins de la Catalogne. Une analyse scientifique est alors réalisée pour authentifier la plante. C'est bien lui, le haricot moda disparu, c'est confirmé. Comment Mme Proulx s'est-elle rendue compte qu'elle avait en main un haricot rare? La voici qui en parle avec Pénélope Clermont.
Après le décès de M. Rouague, j'avais mis en contact M. Rouague avec des gens du cercle culturel catalan à Montréal, parce que lui voulait, son grand rêve, c'était de retourner mourir en Catalogne, retourner vraiment. Et puis on essayait de faire des démarches avec ces gens-là, puis c'était assez complexe finalement, mais jamais. Puis lui, il avait une santé assez chancelante. Alors il n'a pas pu faire son grand projet. Il y avait ces gens-là qu'il connaissait parce qu'ils sont venus l'interviewer dans sa maison. Et moi, je les connaissais. Donc, après le décès de M. Rouen, j'ai rappelé ces gens-là en leur disant, j'ai des haricots qui me viennent de M. Rouen. Ils s'appellent Moda. Ils les appelaient Moda. Je trouve rien sur Internet. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un autre nom qui portait? Alors, ces gens-là ont dit, on va envoyer des graines en Catalogne. Alors, ils ont envoyé des graines à l'Université de Barcelone, des graines qui venaient de chez moi. J'aurais donné peut-être une dizaine de graines. Ils ont envoyé ça là-bas. Et là-bas, ils ont commencé à faire des recherches. Et puis, finalement, ils ont découvert que ce haricot-là était vraiment un haricot catalan qui était disparu des cultures depuis plusieurs années. Et après ça, ben c'est un peu comme ça que ça s'est produit.
Quelle a été votre réaction?
À ce moment-là, j'étais très contente de savoir que ce haricot-là était... Et j'étais aussi contente un peu pour M. Wagg en me disant, bon, ben lui, il n'a pas réalisé son projet de revenir, mais d'une certaine façon, son nom puis ses haricots sont retournés dans sa terre natale. Donc, si en quelque part, il est conscient de ça, ça peut être... C'était bien pour lui.
Oui, c'est très touchant, effectivement. Et la grande question pour nous, là, qui sommes à tête à la baleine, nous avons des graines de ce haricot-là. Comment, je sais que c'est vous qui les avez remis à Micheline Lapointe-Monger, qu'on connaît bien ici, mais dans quel contexte tout ça s'est fait?
Micheline, que vous appelez Mimi là-bas,
oui.
Moi, j'ai rencontré seulement une seule fois. Et puis, elle est venue rencontrer une amie qu'elle a ici à Sainte-Luce, qui est mon amie aussi. Comme je fais des grands jardins avec des fleurs puis un grand potager, ils sont venus visiter mon potager et puis j'ai donné des graines à Madame Lapointe et puis c'est comme ça que ça s'est passé.
Tout simplement comme ça. Avez-vous remis depuis des graines à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a ces haricots qui poussent ailleurs au Québec aussi grâce à vous?
Oui, ben je pense que oui, parce que ben en tout cas moi j'en ai donné à beaucoup d'amis jardiniers, aux gens de ma famille aussi, mais ça se fait davantage de jardinier en jardinier, je vous dirais. Je sais que les gens de Catalogne à Montréal en cultivent parce qu'ils ont comme une espèce de fête annuelle avec une paella et c'est un des ingrédients de leur paella. Donc eux, ils l'ont introduit dans la région, mais ça se fait comme du point de vue plus jardin individuel. Moi, dans ma région, il y a plein de gens aussi dans le village, on en a au jardin communautaire. Il y a plein de gens que je connais autour qui en font. Et il y a un maraîcher du village voisin de Sainte-Flavie qui, lui, il en a sur ses étals. Maintenant, il commence à le produire. Il a un petit peu de difficulté à l'introduire parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu ici. Et dès qu'ils ont adopté, donc ils pensent probablement de développer quelque chose d'intéressant autour de ce haricot-là.
Et quand je vous ai dit là, des haricots espagnols, vous m'avez repris avec raison d'ailleurs que c'est vraiment des haricots catalans parce qu'il y a une distinction entre ces deux types de haricots.
Oui, le haricot espagnol, il est beaucoup connu, mais davantage du côté de l'horticulture. Et si on mettait un haricot modat et un haricot espagnol l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si je pourrais faire la différence. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Sauf que le haricot, comme je vous dis, espagnol, il fait des fleurs rouges. Et c'est surtout pour ça qu'il est vendu. Il sert à cacher des clôtures, faire des tonnelles, des trucs comme ça. Donc, c'est plus l'élément décoratif qui est retenu. Et ce haricot-là, il est assez coriace. C'est pas très bon à manger. Alors que l'autre haricot, et c'est ça qui fait, je pense, qui fait que ça va fonctionner puis que les gens l'adoptent facilement, c'est un haricot qui produit beaucoup quand il est dans des bonnes conditions. Le haricot moda. Et aussi, c'est un haricot qui est très tendre quand on le cueille au bon moment. Il ne faut pas attendre que les graines soient très grosses à l'intérieur, mais il faut vraiment le cueillir quand il est un peu comme les mange-tout, c'est-à-dire assez plate. Les graines ne sont pas développées à l'intérieur. Et il est sucré. Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de fil d'attache comme beaucoup, beaucoup de haricots ont. Et il cuit très, très rapidement. Donc, c'est un bon haricot. Saint-Luc, c'est peut-être un petit peu plus chaud que peut-être à la baleine, mais c'est pas chaud non plus. Alors, quand je le plante à l'extérieur, c'est vraiment autour de la Saint-Jean-Baptiste. Ceux que je plante à l'extérieur, je vais les récolter au mois d'août. Il y a des choses à inventer, je pense. Je me rappelle que M. White faisait pousser lui des artichauts, des endives, et des choses des aubergines ici. Et puis, il se faisait comme des structures sur le sol, comme des petites serres très basses. Puis, il réussissait, même si c'était quand même assez froid. Nous, on est sur le bord du fleuve. Et puis, c'est assez froid. L'été ici, quand on a 20 degrés au mois de juin, on est content. Là, c'est vraiment souvent juste dans les villages derrière. C'est vraiment plus chaud, mais sur le bord de mer, c'est assez frais. Donc, lui, il travaillait avec des serres. Il arrivait à faire pousser des trucs qu'on n'avait jamais essayé ici parce que justement, en le coupant du vent, puis en créant un peu de chaleur autour, il réussit à faire des choses intéressantes. Alors, je pense qu'il y a plein de possibilités aussi à tête à la baleine avec un peu d'imagination et les bonnes semences.
Effectivement, on va garder ça en tête. Bien, merci encore une fois, Mme Proulx, pour le temps accordé ce matin.
Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et puis, comme on le fait de temps à autre, on monte notre périscope, jeter un rapide coup d'œil aux reportages préparés par nos journalistes, postés un peu partout au pays. Premier point de mire au territoire du Nord-Ouest, l'ambassadeur d'Islande au Canada, et là je me risque, M. Innur Gíðason, était à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest pour faire un cadeau bien particulier à la bibliothèque de la ville, pour faire don en fait d'une collection de livres écrits par des auteurs de ce pays d'Europe. La visite de l'ambassadeur d'Islande au Canada, lequel représente aussi son pays, au Costa Rica, oui, vous avez bien entendu, s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire des relations diplomatiques que le Canada entretient avec l'Islande. Une tradition qui perdure. Le Canada donne aussi des livres écrits par des auteurs canadiens à l'Islande. Raphaël Hamel en parle brièvement avec la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alti.
Ambassadeur d'Islande a donné 28 différents livres à la bibliothèque de Yellowknife. C'est une intéressante chance. Des livres sont à propos de l'Islande, donc c'est une chance d'apprendre plus. Mais aussi, il y a des autres qui sont des novels, et donc c'est le même genre, mais il y a aussi des choses qui sont semblables à la Nord, je pense. Et le Canada a donné des livres à l'Islande. Donc, j'étais là en octobre et quand j'ai rentré dans la bibliothèque, il y avait tout un mur de... c'était la première chose que j'ai vue. Il y avait un livre de Tania Tagiak, Split Tooth. Et j'ai dit, oh, c'est quoi? C'est un livre qui est de Nunavut. Et puis, j'ai continué à regarder tous les livres. Et puis, j'ai vu à la fin que les livres étaient donnés par Canada pour célébrer le 75e anniversaire de nos relations diplomatiques.
Okay.
Donc oui, c'est une chance qu'on peut apprendre les deux façons. Les gens d'Islande lisent les histoires qui viennent du Canada et particulièrement du Nord. Et puis nous, on peut lire des histoires qui sont écrites aussi par des gens qui sont dans la région circumpolaire.
Des territoires du Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick, où Maxime Gauthier nous apprend que l'équipe du camp Kanak avait de bonnes nouvelles pour deux résidents du secteur. Ils ont mis la main le 29 novembre dernier sur le gros lot de la chasse à l'as de pique. C'est une loterie. Thérèse Paquet partagera avec son fils Yves-André Kemper la somme de 186 782 $.
J'étais encore sous l'émotion, disons. C'est beaucoup de choses à penser, malgré qu'on pense que c'est un gros montant. Mais quand on compte puis qu'on finit, on se dit, ben il va nous en rester un petit peu pour se payer des loisirs.
On se gagne moins de soucis, là, tu sais. Puis j'ai pas pu dormir dans la nuit, dans tout. Il y a plein de choses, puis tu penses à plein de choses, puis quoi, si tu peux payer avec ça, puis tu sais, ça ôte plein de facours, puis de stress, tout. Là. On se gâte un petit peu, puis on va en serrer.
Alors, à noter que le camp Kanak, un organisme qui propose des activités aux personnes qui ont des besoins particuliers, n'est pas en reste. Sa campagne de financement qui s'est étalée sur 48 semaines lui a permis en fait d'amasser de son côté 295 000 $. Et des nouvelles de notre industrie, d'une radio communautaire, celle de Fermont, ça c'est au Québec, tout en haut, la radio CFMF, à qui le CRTC vient d'accorder le droit d'augmenter la puissance de ses émetteurs et d'étendre son rayon de diffusion par le fait même sa portée géographique. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a donc approuvé la demande déposée par CFMF. La puissance de son émetteur fera d'ailleurs tout un bond en passant de, oui, 37 à 2290 watts de puissance. Une nouvelle qu'attendait avec impatience la population de Fermont et des alentours, et qui avait d'ailleurs offert son soutien et son appui à la radio. Une décision qui réjouit aussi, bien sûr, le directeur général de la radio CFMF, Carl Gagné-Côté.
La qualité du signal va être meilleure, puis la portée du signal aussi. Tu sais, ça va beaucoup plus loin. On vient englober les sites miniers, ça serait en Labrador City, ça va même chercher une portion de la 389. Donc, tu sais, c'est une question de sécurité, c'est une question d'accompagner les gens où ils sont aussi, beaucoup de villégiateurs qui vont pouvoir mieux nous écouter. Puis la qualité sonore aussi qui va être grandement améliorée avec les nouveaux équipements qui vont être installés en studio et à l'émetteur aussi. Quand on avait sondé les gens pour avoir leur appui, pour envoyer, les gens étaient contents de voir le rayonnement, tu sais, juste de pas avoir à changer de poste de radio quand on s'en va à la mine, ce genre de choses-là, de pouvoir, comme tu l'as dit, aller au Labrador, toujours en écoutant le 103.1. Ça va vraiment amener une plus grande stabilité. Puis nous aussi, tu sais, ça va être le fun. Nos auditeurs vont pas jouer avec les postes de radio, donc techniquement, on pense qu'ils vont nous écouter un peu plus. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour la radio aussi. Puis, tu sais, si ça peut développer également de nouvelles habitudes d'écoute pour les auditeurs qui vont maintenant nous capter de leur chalet, qui vont nous capter de leur maison, qui sont peut-être au lac d'Aigle, ce genre de choses-là, ben, ça va juste être tant mieux, ça va augmenter le bassin là, d'auditeurs qu'on va rejoindre.
Voilà, c'est sur ces bonnes nouvelles que se conclut cet épisode de Point de vue. Merci à nos journalistes Pénélope Clermont, Maxime Gauthier, Raphaël Hamel, Elisabeth Séguin, Élie Nkoulou et Vincent Lavoie. À notre coordonnateur Stéphane Bénard, merci aussi. Et aux artistes, bien sûr, qui nous offrent si généreusement leur musique. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez à l'antenne de l'émission qui suit. À bientôt.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.